Et bien entendu, le fait de le recevoir dans sa langue, avec tout ce que ça implique, et de le recevoir avec comme sous forme de des bontés qui se donnent sous forme de, je sais pas, de nourriture. C'est pas n'importe quelle nourriture. Vous n'avez pas la même nourriture pour les Chinois et pour les Indiens et pour les Suédois, etc. Chacun a sa façon de recevoir les choses. Et il n'est pas vraiment capable de recevoir autrement. Il peut pas, il n'a pas la mentalité, chacun selon sa culture. Le seul peuple qui n'a pas d'Eloah au sens où les autres peuples en ont un, c'est le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas d'Eloah? Ça veut dire que on peut comprendre, si vous voulez, cette réception à travers une culture comme étant une espèce de réception à travers un filtre. Les choses sont filtrées pour qu'elles soient recevables par ce peuple-là. Nous, les choses ne sont pas filtrées. En quelque sorte, les Bnei Israël, eux, ils sont branchés directement sur le flux divin. Ils n'ont pas, les choses ne sont pas reformatées d'une façon. Non, on a la parole d'Hachem sous forme de Torah. Ça, c'est toute la parole d'Hachem, si on peut parler comme ça. Il nous donnait sans filtre. Et alors, on a peut-être l'impression que ça pourrait nous manquer, si vous voulez, d'avoir une Hashgaha pratique, parce que quelque part, c'est très large ce qui nous est donné, c'est ce qui est donné à tout le monde, ce qu'ils voulaient, et nous, on reçoit tout. Eux, ils reçoivent seulement une partie, chacun selon ce qu'il est capable de recevoir, et nous, d'une certaine manière, bien sûr, c'est relatif à ce que les êtres humains peuvent recevoir, mais et nous, on reçoit tout. Alors, quand on dit que les Bnei Israël reçoivent tout, alors, souvenez-vous de ce qu'on a vu la semaine dernière. Déjà, à ce moment-là, Hachem avait dit à Moshe Rabbeinu, tu vas dire à Paro, Bnei Bechori Israël. Israël est mon premier-né. Je crois qu'on a vu avec vous, je crois, la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire, premier-né? Vous vous souvenez probablement. Premier-né, ça veut dire la chose suivante. On avait déjà remarqué, ça va nous aider, remarquer que le mot Bechor, qui veut dire donc premier-né, le mot Bechor, il s'écrit Bet Kafresh, c'est-à-dire il s'écrit avec des lettres dont la valeur numérique est Bet c'est 2, Kaf c'est 20, et Resh c'est 200. Et donc, si vous voulez, si on devait l'écrire avec nos chiffres, on écrirait, au lieu de Bechor, on l'écrirait 222. Alors, pour quelque chose qui doit être le premier-né, c'est un peu paradoxal d'avoir quelque chose qui se dit en 222. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, que le Bechor, il a une part supplémentaire dans l'héritage? Pourquoi le Bechor, quand il hérite de son père, il hérite une double part. Et tout ça vient dire la chose suivante, que le Bechor est d'une certaine façon un second père, au sens où il est celui qui traduit l'enseignement du père dans le langage de la nouvelle génération. Pour ses frères et sœurs qui viennent après lui, c'est lui qui va transmettre le message du père. Et c'est en cela il est deuxième. Bechor, ça veut dire deuxième. Mais donc, c'est celui qui assure justement la continuité d'une génération à l'autre. L'enseignement passe d'une génération à l'autre. Il vient, bien sûr, dans la nouvelle génération. Il va être enrichi, éventuellement un peu modifié, etc. Et puis repasser à la génération d'après. Mais si on veut assurer une continuité, eh bien, on a besoin des Bechorot. On a besoin des premiers-nés. Donc, le Klal Israël, Hachem le présente, Il dit à Moshe, tu vas présenter les Bnei Israël comme étant mon Bechor, c'est-à-dire celui qui va transmettre mon enseignement au monde. Et c'est la tâche des Bnei Israël. Mais bien entendu, c'est extrêmement vaste. Et par conséquent, on a besoin d'une prise en charge, si on peut parler comme ça, qu'on aimerait bien avoir plus personnalisée, en fait. On a besoin d'un Elohim. On a besoin qu'Hachem joue aussi, lui qui est Hachem, que pour nous, il joue le rôle d'Elohim. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit, Va-t-il Hachem l'Elohim? C'est-à-dire, je jouerai le rôle de. Je jouerai le rôle d'Elohim. Vous n'avez pas d'Eloah, d'accord? Vous n'en avez toujours pas, mais moi, je m'occuperai de vous, j'aurai pour vous un regard particulier, je vais m'occuper de vous en permanence, Ashgaha Pratit, de telle sorte que ce soit comme si vous aviez, de ce point de vue-là, un Eloah qui s'occupe de vous. Donc, on n'en a pas parce qu'on ne veut pas que ça soit filtré, on veut recevoir la totalité, mais Hachem dit, mais vous n'allez rien perdre parce que, par ailleurs, je vais m'occuper de vous. Et d'un autre côté, vous allez jouer un rôle. Vous allez être mon peuple. Être le peuple d'Hachem, c'est pratiquement impossible parce que le peuple d'Hachem, il faut qu'il puisse. Qu'est-ce que c'est être le peuple d'Hachem? Ça veut dire que c'est un peuple qui montre comment Hachem veut qu'un peuple se conduise, en fait. Et donc, il voulait dire qu'on est le peuple d'Hachem, c'est assez énorme, c'est très très grand, c'est très. Comment est-ce que c'est possible? Dans la mesure où le spectre, en quelque sorte, de toutes les possibilités est là, et comment est-ce qu'on peut être le peuple d'Hachem? Oui. C'est un filtre, oui. Nous, on veut pas de filtre, mais on veut le beurre et l'argent du beurre. Ça veut dire, on veut ne pas avoir de filtre, on veut avoir la parole entière d'Hachem, mais on veut aussi qu'Hachem s'occupe de nous précisément, spécifiquement. Une hashgaha pratit. Ils nous permettent, ils s'occupent de nous dans le détail. Comment exactement, peu importe, mais voilà, ils s'occupent de nous dans le détail. Comme on veut avoir quelqu'un, bien sûr, on veut tout. Mais on veut aussi le privilège d'avoir, de sentir qu'on est pris en charge, qu'on est particulièrement proche, parce que quelqu'un s'occupe de nous, si vous voulez. Non, non, c'est jamais, c'est pas infantilisé, dans la mesure où ça fait partie de l'idée que on doit avoir une relation particulière avec HM. C'est pas infantilisant, au contraire. Ça, justement, on est le peuple d'Hachem et donc on a beaucoup d'obligations résultant de cette situation-là. Mais du coup, on veut bénéficier aussi de ce privilège qu'Hachem s'occupe de nous. Par exemple, qu'il y a une anaga, une façon de gouverner le monde où Hachem, par exemple, par rapport au Motaolam, au peuple, Hachem laisse. Et laisse faire jusqu'à ce que la mesure soit pleine, et à ce moment-là, il sanctionne. Chez nous, il ne laisse pas la main, il ne laisse pas, il nous sanctionne tout de suite. Et c'est pour ça que, alors du coup, on peut survivre quand même, parce qu'il sanctionne le moindre écart, et donc on n'arrive pas à ce que la mesure soit pleine. D'accord? Donc c'est une façon, vous pourrez dire, voilà, c'est une façon de nous traiter spécifiquement, de donner un privilège. Voilà, comme on s'occupe d'un enfant, c'est vrai, mais c'est pas une infantilisation dans la mesure où c'est par rapport à Hachem. Si c'était par autre chose, alors effectivement, se soumettre volontairement à quelque, ça diminuerait la dimension humaine etc. Mais par rapport à Hachem,
Est-ce que ici, parce que je pense à Adam, qui a produit Adam ou Adam,
Adam.
Adam. Adam, il a voulu faire mieux. Et vous je crois, il a posé. Est-ce que ce qu'on demande à Hachem, ce bichonnage, est-ce que c'est pour faire mieux?
Non, pas mieux.
Pourquoi?
Non, c'est le faire mieux, ça veut dire vous êtes le peuple d'Hachem, donc vous avez des obligations supplémentaires, vous devez faire mieux que les autres, parce que vous devez enseigner. Mais c'est pas du tout, c'est pas pour faire mieux, c'est pour pouvoir vivre autrement, quoi. C'est aussi la garantie de la survie. Parce que si on laisse, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pourquoi les nations, les civilisations, les cultures meurent? Parce que Hachem les laisse aller jusqu'à ce que ça déborde. À ce moment, quand ça déborde, ils sont perdus. Et nous, justement, Hachem nous sanctionne avant pour que nous ne soyons pas perdus.
Elle n'est pas déjà contenue dans la Torah par
Mais on n'a pas encore reçu la Torah ici, pour l'instant.
exemple.
On ne parle que de la sortie d'Égypte. Je vais vous sortir, etc. Et je vais m'occuper de vous. Il y a pas, on n'est pas encore ça, on n'a pas reçu encore la Torah. Donc, la réception de la Torah, c'est une partie du travail. Oui. Quelqu'un voulait dire quelque chose?
L'histoire de Sefer Yonah est une exception d'aller faire prévenir les goyim de faire
Non, mais
tshuva.
le problème, c'est que c'est pas qu'Hachem ne l'envoie jamais il envoie des prophètes aux nations. Seulement, en général, ils les écoutent pas. Ce qui s'est passé, c'est que Yonah, il a pensé, il a senti que les gens de Ninevé, ils allaient écouter, ils allaient faire tshuva. Hachem donne aussi les possibilités de s'améliorer aux autres. Simplement, si vous voulez, ça, il tape pas assez fort pour les obliger. Chez nous, il tape souvent très très fort pour nous obliger à nous amender. Eux, ils leur envoient des prophètes. À nous aussi, ils envoient des prophètes qu'on n'a pas écoutés. C'est ça le problème de Yonah d'ailleurs. Yonah, il veut pas aller à Ninevé parce que il sait que Ninevé va écouter et qu'on va dire, ah, regardez, à Ninevé, il a envoyé un prophète, ils ont tout de suite écouté. Les Bnei Israël, ça fait des dizaines de prophètes et de prophétesses qu'on leur envoie et ils font pas de tshuva. Donc, Yonah, il voulait échapper à ça.
C'était dans le projet d'Hachem et on a un si petit nombre d'Israël en fait.
Oui, oh, je ne sais pas, ça c'est la liberté des gens.
Et bon, il faut les moyens. Hachem, il fait en fonction de ce qu'on demande, ce qu'on est capable de faire avec nous, il a vu tout ça.
Bien sûr, Hachem sait tout ce qui se passe,
Et alors,
mais il laisse la liberté aux hommes. Il y avait la liberté, parce que ce qui était demandé, enfin, pour l'instant vous anticipez un peu, ce qui va être demandé au Bnei Israël, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile. Quitter l'Égypte ou à un moment où ils se sentent déjà mieux en Égypte, on va voir, pour aller on ne sait pas où. A priori, c'est pour mourir parce que bon, personne n'est jamais sorti, aucun esclave n'est jamais sorti d'Égypte, sauf sans mourir, quoi. Et les Bnei Ephraïm qui sont sortis prématurément, ils sont morts. Donc, je reviens sur ce qu'on disait. Hachem dit au Bnei, il dit à Moshe Rabbeinu, donc, de le dire au Bnei Israël que voilà ce qui va arriver. Et comme vous savez, ces quatre verbes-là de ce verset, dans le Vehotzelti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti, ces quatre verbes, ici, ou ces quatre notions dont on va parler un peu, elle donne lieu aux arba kossot, les quatre verres de vin qu'on boit au cours du seder de Pessah. Donc c'est bien toute la Géoula qui est dite ici dans deux versets, de façon extrêmement concise, Alors, je voulais voir avec vous, c'est ça le cours de ce soir, je voulais voir avec vous ce qu'en dit le Meshech Chokhma. Le Meshech Chokhma, c'était un des grands maîtres, Meir Simcha. Il était un rav au Shiva à Dvinsk, en Russie, dans les années 20-30. Et il a écrit deux ouvrages fondamentaux, un commentaire de la Torah, celui qu'on utilise ici, Meshech Chokhma, et un commentaire, si vous voulez, du Rambam, qui s'appelle Or Samer. C'était une toute grosse pointure de cette génération-là. Alors voilà ce qu'il dit. Verotzeti. Alors il dit, les quatre verbes en question s'appellent Arba Leshonot Shel Geoula. Ces quatre expressions de la Géoula. Alors, verotseti, je vous ferai sortir. Alors, on dit que ce verset-là, il correspond à un verset qui est dans Dvarim, qui dit Lotsi Goy, Mikerev Goy. Il y a un verset dans Barim qui décrit la sortie d'Égypte et qui dit, il s'agissait de faire sortir un peuple du sein d'un peuple. Ça veut dire que les Bnei Israël, c'était des Égyptiens. On aurait dit, je vous ai dit, aujourd'hui, on aurait dit, pas aujourd'hui, au 19e siècle, en Allemagne, on aurait dit que c'est les Égyptiens de confession mosaïque. Bon, c'est pas encore tout à fait le cas de mosaïque pour l'instant, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui vivent en Égypte, pour certains, plusieurs générations, donc, et voilà, ils sont indiscernables. Goy mikerev goy. Que ubara mitochisha. C'est-à-dire, c'est faire sortir le fœtus du ventre de sa mère. Alors, pourquoi est-ce que on dit que c'est Goy Mikerev Goy? C'est parce que ils étaient tellement enfoncés, dit-il, dans Avodah Zara, l'idolâtrie, et dans les Deot Mushratot, et ils avaient des opinions, ils étaient complètement si vous voulez, envahi par la façon de penser tordue, perverse des Égyptiens. Eux aussi, ils pensaient comme ça. C'est pour ça que on peut parler de Verotseti. Donc, il veut dire, Verotseti, c'est vraiment une sortie de. Et on voit bien que ce verbe de hotsaa, de sortie, c'est vraiment une extraction d'un peuple qui est pourtant complètement, très, très fortement mélangé avec le peuple égyptien. Le deuxième verbe, veitsalti, je vous sauverai. C'est Alma chez Inu Otam Lchalotam. Pourquoi il faut les sauver, sauver de la mort en fait? Parce que les souffrances que les Égyptiens ont imposées aux Bnei Israël, c'était pour les détruire. C'est-à-dire des souffrances du genre Kolaben Aïloud. Donc tout enfant qui va naître, on va le noyer. Donc c'est-à-dire. Il s'agit de sauver, comme on dit, quelqu'un qu'on a sauvé des mains, des griffes de l'assassin. Végalti. Pardon? Végalti. Et je vous libérerai. Libérer de la condition d'esclave. C'est-à-dire, vous allez devenir libre. c'est-à-dire non esclave. Velakarti etchem li le'am, et je vous prendrai pour moi comme peuple, c'est-à-dire le'am nimusi ou le'umi bemishtar v'seder. V'Hashem aleihem le melech. Ce sera un peuple civilisé, un peuple avec une constitution, avec des lois en fait, et un peuple qui est très très bien organisé, très bien. Et ce peuple aura un roi, pardon, et le roi, ce sera Hachem. Alors, dans la Gemara, dans l'Yerushalmi, dans le Talmud Yerushalmi, on met en rapport, si vous voulez, ces quatre verbes avec comme je vous ai dit, les quatre coupes de vin qu'on boit le soir du Seder. Alors, le Yerushalmi dit la chose suivante. Donc, encore une fois, ce que va faire ici le Meshech Chokhma, il va comparer chacun de ces verbes, chacune de ces notions qu'on a brièvement décrites là, maintenant, avec les quatre coupes, c'est-à-dire, alors, chacune de ces coupes est bue à un moment bien précis de la Haggadah. Donc, il faut mettre en rapport ces verbes avec ce moment précis dans la Haggadah de Pessah. Donc, le premier kos, comme vous savez, c'est le kos de Kiddush. Quand le premier verre qu'on boit le soir du Seder, il a deux casquettes. C'est un verre de Kiddush comme le verre de vin qu'on boit tous les Shabbats quand on fait Kiddush et tous les Yamim Tovim quand on fait Kiddush. Première casquette. Et deuxième casquette, il est le premier des quatre coupes. C'est la première des quatre coupes qu'on va boire durant la soirée. Il faut penser quand on fait le soir du Seder, quand vous buvez ce kos, que vous buvez naturellement accoudé sur le côté gauche, etc. Vous devez penser: je fais la mitzvah de boire le premier des quatre kossot. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec la sortie d'Égypte en fait? Israël me kachez manim. Donc, premièrement, on sait bien que les Bnei Israël, pourquoi cette notion de kiddush? Parce que les Bnei Israël sanctifient le temps. Pas on dit à Yom Tov, c'est ça, Yom Tov, on dit Mekadesh Israël ve'azmanim. Les Bnei Israël sanctifient le temps, c'est-à-dire plus exactement, pour pouvoir sanctifier le temps, il faut d'abord qu'Hachem donne la Kdusha aux Bnei Israël et que les Bnei Israël sanctifient le temps. Comme on dit à Chodesh Hazeh Lachem, et l'Yerushalmi dit dans Rosh Hashanah, dit, mais quand est-ce que Shem Kedoshim? Quand est-ce que les Bnei Israël sanctifient le temps? Lorsqu'ils sont eux-mêmes Kedoshim. Et c'est pour ça que on a juxtaposé sa marque Kedoshim Tiyu le Arayot. Comme vous savez, dans la Kedoshim Tiyu, c'est donc un passouk, d'accord, dans le Sefer Vayikra. Et juste après, enfin, juste à côté de cette notion de Kedushim Tiyu, il y a la paracha de Arayot. Donc les interdits concernant les relations sexuelles interdites. Chez Makom, alors Rashi dit, quand il explique Kedushim, soyez saints, Rashi dit, Chez Kol Makom, Chez Atamotse, Geder Erva, Atamotsek Doucha. Comme partout où tu vois qu'on a pris des mesures pour pas que ça dérive dans le domaine des relations donc sexuelles interdites, tu vois que c'est de la Kdusha, c'est de Kdusha qu'il s'agit. Et ces Bnei Israël qui sanctifient le temps, ils sont de par cette possibilité qu'ils ont d'être Kedoshim, ils sont plus haut, plus grands que les anges de service. Puisque, à leur sujet, on dit que ils ont une double Kedusha, dans la mesure où c'est marqué, Vehit Kadishtem, vous vous sanctifierez, Vehitem Kedoshim, et vous serez Kedoshim, et vous serez saints. Aïnou, Shem et Kachim et Tazman, c'est-à-dire, comment est-ce que vous allez arriver à ce niveau-là? Vous allez sanctifier le temps. Velachen, que chez Ayoub, Gdurim, Inaharayot, Vemitsraim, chez Lachen, Itachen, Veotseti, chez Mloken, Ech Yachol, Leotsi, Vne, Nochrit, Kmota, ou Kmo, Bebait, Sheni, Venikraim, Kedoshim, Mekatche, Azmanim. Ils sont appelés Kedoshim au sens où ils donnent de la Kedusha au temps. Et ça, c'est seulement possible si eux-mêmes sont Kedoshim et la Kedusha chez les humains, en quelque sorte, elle s'exprime par le fait de respecter ces lois concernant les relations sexuelles. Donc, comme il explique que effectivement, on n'aurait pas pu sortir les Bnei Israël d'Égypte, parce que Yefchar le Hotsi, Tavar Echad Minasheni, on ne peut pas extraire une chose d'une autre chose tant que les deux sont complètement mélangés et qu'on n'a aucun moyen de distinguer l'un de l'autre. Et de la même manière que dans la halakha, si la mère n'est pas juive, alors l'enfant, il n'est pas juif non plus. Et donc les gdarim, les barrières qu'il faut mettre dans le domaine des Arayot en Égypte, qu'ils ont mises effectivement, donc cette séparation qu'il a eue par rapport aux Égyptiens, c'est ça qui leur a permis d'être Kedoshim, c'est-à-dire séparés effectivement, et ça a donné la possibilité de les faire sortir, bien qu'ils aient été mélangés. Ils sont mélangés, mais ils ont quelque chose. Il y a un point sur lequel ils n'ont pas cédé. Vous vous souvenez, on a expliqué, je crois qu'il y a deux shiurim, que les Bnei Israël avaient quatre points positifs en Égypte. Ils n'ont pas changé leur nom, pas changé leur langue. Effectivement, il n'y avait pas d'Arayot non plus. Ils n'ont pas dit de la Shonara. Donc, il n'y avait pas de problème de dégradation des mœurs. Les Bnei Israël qui vivaient dans un pays qui était vraiment très, très avancé dans la dégradation sur le plan des relations sexuelles, les Bnei Israël se sont tenus à carreau, en quelque sorte. Eux, ils ne sont pas tombés dans ce piège-là. C'est ça qui les a singularisés, et c'est ça qui a permis, malgré que les Bnei Israël étaient Goy mi kerev goy, un peuple au sein même d'un autre peuple, c'est ça qui a permis de sortir.
Dans l'Égypte, alors ces quatre points sont fondamentaux et puis des
Mais malgré ça, ils habitaient, on voit après dans la suite, ils habitaient les uns à côté des autres, ils étaient vraiment mélangés. C'est la faute des Bnei Israël. Quand on dit que les Bnei Israël se sont répandus dans tout le pays, c'est ça que ça veut dire. Ils auraient dû rester à Goshen, comme Yosef le leur avait dit, mais ils se sont répandus dans tout le pays, donc ils étaient partout, il y en avait partout. La Torah dit que quand tu es en galoute, tu dois prendre des mesures de séparation. Alors le problème, c'est que si c'est pas un système de ghetto, alors il faut être très fort pour ne pas être influencé par les caractéristiques négatives des peuples chez lesquels on est en exil.
Il montre tellement de détermination et d'Israël par le fait qu'ils ne se mélangent pas, ils n'ont pas des relations interdites. Ça veut dire quand même qu'ils sont ancrés chez eux.
C'est pour ça qu'ils ont pu être sortis. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est ça que veut dire le Meshech Chokhma. Si on peut parler de Verotseti, c'est uniquement parce que vous avez fait un travail en amont, en quelque sorte, pour que je puisse vous sortir. C'est-à-dire que il est resté quelque chose de cet enseignement, probablement malgré tout, d'Abraham, Yitzhak et Jacob, qui eux faisaient très attention à toutes ces choses-là. Eh bien, c'est resté et ça leur a permis d'être désignables. Comment on fait pour les sortir si on ne peut pas les distinguer? Eh bien, voilà, ils se sont distingués par ça. Excusez, j'entends pas ce que vous avez dit. Quelqu'un a dit quelque chose dans l'ordinateur, mais le Zoom, si c'était destiné à être entendu, répétez-le, s'il vous plaît. Sinon, si j'entends rien, ça veut dire que c'était. Alors gardez bien vos micros fermés si vous ne voulez pas qu'on vous entende. Bon, ça c'est pour Vehotseti. Ensuite, le deuxième verbe, d'accord, c'est-à-dire Vehitsalti, je vais vous sauver, on a dit, c'est comme sauver quelqu'un des mains d'un assassin, de quelqu'un qui veut le tuer. Donc, est-ce qu'il est possible, effectivement, de sauver quelqu'un, sauver un juif quand il est dans un pays où le goy est roi, si on peut parler, et il est en train de le poursuivre, et il veut le cas échéant le tuer, comment est-ce qu'il peut se sauver? Comment est-ce qu'on peut le sauver? Alors, évidemment, ça ne marche. On peut les sauver que lorsque eux-mêmes ne se poursuivent pas les uns les autres. Si les gens se poursuivent les uns les autres, alors on dit chez Shelo Gilu Mistorin Shebahem. Et ceci, c'est parce qu'ils n'ont pas dévoilé leur mystère, en fait. Ils n'ont pas dévoilé certaines choses d'extrêmement privé, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire une des quatre, comme on dit, une des quatre raisons qui ont permis de les sortir d'Égypte. Il y a une Mechilta, il y a un texte qui dit la chose suivante. Rabbi Eliezer dit, Eliezer HaKadar, donc a priori c'était un potier, il dit: וְחִלּוֹ הָיָה בִּידָּם שֶׁל יִשְׂרָאֵל אַרְבַע מִצְוֹת שֶׁאֵין כָּל הָעוֹלָם כִּדַּאי בָּהֶם. Il s'était demandé, est-ce que les bénis Israël n'ont pas quatre mitzvot qui justifient? Il y a quatre verbes, quoi, il n'y a pas quatre mitzvot. On ne peut pas trouver quatre mitzvot que les bénis Israël faisaient. Quatre. Il n'y avait pas encore de mitzvot spécifique, il n'y avait pas les 613 mitzvot, mais peut-être dire que il y avait, disons, quatre bonnes actions que les bnei Israël faisaient pour pouvoir justifier. Alors on a dit chez l'honneur shedu al ha'arayot, velo al lashon hara, velo shinu et shmam, velo shinu et leshonam. Donc c'est les quatre, ils avaient ces quatre caractéristique. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que les quatre verbes qui indiquent le sauvetage des bnei Israël correspondent à ces quatre qualités que les bnei Israël avaient? Alors, d'après ce que dit ici le Meshech Chokhma, on a dit, Otseti, c'est par rapport au Arayot, Vitsalti, c'est par rapport au Lashonara. Rotfim, se poursuivre, se faire du mal les uns aux autres, c'est le problème du Lashonara. Etc. Donc, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Et ça correspond au kos de Birkat Hamazon. C'est-à-dire, en vérité, le troisième kos. C'est le deuxième verbe, mais ça correspond, d'après le Meshech Chokhma, au troisième kos. Parce que Birkat Hamazon, c'est le verbe qu'on boit au moment où on a dit le Birkat Hamazon en tenant le verre de vin, et après on le boit. C'est le troisième cosse qu'on boit. Sheikara Malchinut, Uba Me'eder Aemuna Ba'ashgaha, Umichisaron Istapkut. Birkat Hamazon, Hu, Shema'amin, Shekolechad Nizon, Me'Hashem Yitbarach, Ume'Istapkut. שמדקדקים על עצמם כזית וכביצה, ואינו מקנא בחברו. דונק, en quoi est-ce que le Birkat Amazon a à voir avec le problème de la Shonara? Alors, il explique les choses de la manière suivante. Quand on dit du mal de quelqu'un, ça veut dire que on a l'impression que pour exister, il faut que je rabaisse l'autre. Sinon, j'y arriverai pas. Et donc, si on va rabaisser l'autre en disant du lashon hara à son sujet, en vérité, comme ici, le malchin, c'est pas seulement lashon hara, parce que lashon hara, c'est vrai. Mais il y a un motzi shem ra et alchinut, c'est l'alchinut, c'est aussi c'est dire du mal vraiment quelqu'un. Et ça vient d'un manque d'émouna dans la Hashgaha. C'est-à-dire, si tu penses qu'il faut que l'autre disparaisse pour que moi je puisse m'épanouir, ça veut dire que tu penses que Hachem va, que c'est pas Hachem qui décide qui s'épanouit comme ci et qui s'épanouit comme ça et qui reste, qui va être riche et qui va être pauvre, etc. Et que tout ça, c'est pas décidé par Hachem. C'est un chisaron aussi, un manque dans la istapkut, c'est-à-dire quand quelqu'un n'est pas capable de se satisfaire de ce qu'il a. Or, le Birkat Hamazon, qu'est-ce qu'on dit dans Birkat Hamazon? On exprime que c'est Hachem qui nourrit chacun et qui nourrit chacun en fonction de, comme on dit, de ses besoins. Chacun reçoit selon qu'il a vraiment besoin pour s'épanouir. Et quand on dit que les Bnei Israël sont caractérisés par le fait qu'ils peuvent se contenter de peu, c'est que pour faire Birkat Hamazon, normalement, on devrait, qu'est-ce qui est écrit dans le verset? Ve'achalta, ve'savata ou ve'rarta. C'est-à-dire, le Birkat Hamazon, normalement, c'est seulement si on est savéa. Savéa, c'est-à-dire rassasié. Donc, le vrai Birkat Hamazon, d'une certaine manière, si on s'en tient au pasouk, on devrait dire Birkat Hamazon seulement quand on est rassasié. Or, les Bnei Israël, c'est que dans la Gemara, les Bnei Israël, ils ont pris sur eux de dire Birkat Hamazon, même s'ils avaient seulement mangé un kezaïd de pain. A priori, un kezaïd de pain, la grosseur d'une olive, même si c'est une très grosse olive, c'est en général pas super rassasiant. Voir manger un morceau de pain de la grosseur d'une olive, c'est pas bon. Et les Bnei Israël ont décidé qu'ils allaient faire Birkat Hamazon dès lors qu'ils auront mangé cette quantité de pain. Et donc c'est ça veut dire, ils disent, on peut se contenter, je peux considérer que voilà, je suis rassasié. C'est pas que je suis physiquement rassasié, mais je me conduis comme si j'étais rassasié, bien que je n'ai mangé qu'un kezaït. Donc, le Birkat Hamazon, il montre la Emouna que Hachem nourrit chacun, et il montre que les Bnei Israël sont capables de se contenter de peu. C'est exactement la condition pour avoir, pour qu'on puisse sauver quelqu'un, d'accord, pour le sauver quelqu'un de quelqu'un d'autre qui le poursuit, qui veut le tuer. Eh bien, il faut que les gens prennent l'habitude de ne pas se poursuivre, de ne pas dire de la Shonara. Et donc, on voit bien, donc avoir confiance. Et donc, c'est pour ça que ce deuxième verbe correspond au troisième verbe de vin, celui du Birkat Hamazon. Végaalti, et je vous libérerai. C'est-à-dire, la Gemara, elle discute. Est-ce que quand quelqu'un est esclave, quand il passe de la condition d'esclave à la condition d'homme libre, est-ce que c'est toujours vu comme quelque chose de positif ou bien est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté négatif vu par l'esclave lui-même? Dans la mesure où, quand on est esclave, on est pris en charge. Si vous voulez, ça vous enlève toute responsabilité. Donc, pour être dans cette situation-là, pour se trouver bien dans cette irresponsabilité, il faut ne pas avoir conscience d'où je viens. Je viens des Avot. Les Avot, c'est des gens qui se sont responsabilisés pour le monde. Or, c'est quelqu'un qui n'a pas ce qu'on appelle du yichus. Ça veut dire, il n'y a pas de paternité. Le Eved, il a plus de père, etc. Il est le produit de, bon, il y a eu une relation entre un homme et une femme et ça a donné, la femme était peut-être aussi une esclave. Et donc, ça a donné un esclave, c'est tout. Et quand on dit que les Bnei Israël n'ont pas changé leur nom, ça veut dire que justement, le nom, ça les rappelait, ça les rattachait aux ancêtres. C'est Rouven, Shimon, etc. Et donc ça correspond au deuxième vers de 20, qui est un vers... qui est le vers sur lequel on dit la moitié du Hallel. Encore après les récits sur la sortie d'Égypte et sur la sortie de l'esclavage et la sortie donc de l'idolâtrie, on dit les premiers chapitres du Hallel et dont on dira la fin après le repas. On dit les deux premiers chapitres du Hallel et à ce moment-là, on boit le deuxième vers. Et le deuxième vers qui donc qui nous rattache, qu'est-ce qu'on dit, la Betzet Israël, Mitzrayim, on raconte dans ce Hallel la sortie d'Égypte, donc on se rattache aux ancêtres. Donc c'est pour ça que ce Ve'egalti vient nous rappeler en quelque sorte la liberté, la notion de liberté, une liberté complètement. Ce qui vient vraiment avec la totale liberté, c'est la responsabilité. Quand je ne suis pas libre, alors j'ai une responsabilité limitée. Ce que je ne peux pas je peux pas faire face à tout. Je fais ce que je peux dans la mesure où le maître me permettra de le faire. Donc je ne suis pas en position de faire les choses comme elles devraient être faites. Et ensuite, la carte qui est Lil'am, je vous prendrai pour moi comme peuple, Alors ça correspond à Shelo Shinu et Lshonam, c'est-à-dire ils n'ont pas changé leur langue, c'est-à-dire ils montraient bien que ils gardaient la langue avec laquelle ils vont s'exprimer lorsqu'ils seront parfaitement libres. C'est-à-dire même si maintenant ils ne sont pas libres, ils sont aussi obligés de parler avec les Égyptiens, l'Égyptien, mais ils ont gardé leur langue, ce qui n'a de sens que si on pense qu'un jour on va pouvoir retrouver une forme d'autonomie, on va retrouver une situation dans laquelle on va pouvoir pratiquer ouvertement et couramment la langue. Donc, si, c'est pour ça qu'ils l'ont gardé, c'est-à-dire qu'il y avait espoir d'être libéré, de devenir une nation. Et ça, d'où est-ce pourquoi ils ont pensé une chose pareille? D'où est-ce qu'ils ont trouvé la force d'avoir cet espoir, en fait? Ça, dit le Meshech Chokhma, ils l'ont appris de Yosef. Parce que Yosef, même si il était, quelle que soit la situation dans laquelle il était, même quand il était vice-roi d'Égypte, dans le Passouk dit qu'il leur a dit, quand il s'est révélé à ses frères, il leur a dit, vous voyez bien que c'est moi, Yosef, qui pi amdaber alechem, c'est moi qui vous parle. Moi, je vous parle hébreu, donc pourquoi est-ce que vous pouvez me croire? Shaya me kaveh la atid. Et il leur a dit, pakod yivkod, c'est Yosef qui leur a donné le code de libération. Il leur a dit, celui qui vous libérera vraiment, c'est quelqu'un qui viendra et qui dira, pakod yivkod, etrem. C'est-à-dire, Hachem va, il va vous, il va se réoccuper de vous en quelque sorte. Il va vous redonner un rôle. Et ça correspond à la deuxième moitié du Hallel, c'est-à-dire le quatrième kos, le dernier kos, qu'on dit après avoir dit la seconde moitié du Hallel. La deuxième partie du Hallel est elle est construite sur justement ce futur national, si on peut parler comme ça, parce que c'est marqué Mina Meitsa Karatika, c'est-à-dire je t'ai appelé quand j'étais en Égypte, c'est-à-dire quand j'étais la situation. Meitsar, c'est l'étroitesse. En Égypte, c'est appelé Mitzrayim parce que c'est un pays très étroit. C'est la vallée du Nil essentiellement. Et donc voilà comment, si vous voulez, pour le Meshech Chokhma, les quatre Lechonot correspondent aux quatre vers. Et c'est pour ça que, alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a été metaken? Pourquoi est-ce qu'on a instauré de boire des coupes de vin pour ça? On aurait pu, je ne sais pas, décider de manger la matzah, un morceau de matzah ou je sais pas, un morceau de viande ou je sais pas, une barre de chocolat, je sais pas. Pourquoi on a, enfin, chacun dit ce qu'il a envie, hein. Mais en fait, comme vous savez, le vin, c'est ce qui nous sépare c'est avec ça qu'on se sépare des goïms spécifiquement. Quand on a voulu empêcher les mariages mixtes, alors on a introduit cette notion de vin qu'on peut pas boire avec les goïms parce que on peut pas boire leur vin et on peut pas boire du vin qu'ils ont touché, etc. Donc le vin, il vient marquer la différence. En galoute, c'est lui qui marque la différence. Et donc, il faut s'être singularisé, encore une fois, comme on a dit. Si on marque pas la différence, alors comment est-ce qu'on peut se libérer? Donc, le vin, c'est la nourriture avec laquelle on marque la différence. C'est pour ça qu'on fait aussi Abdallah sur le vin, par exemple. Oui?
Quand on parle des 49 degrés d'impureté,
Oui.
comment est-ce qu'on peut les envisager avec tout ce qu'on vient de dire alors qu'on n'est même pas devant une société où on a reçu la Torah, on a lu la Torah, on n'est pas complètement.
On n'a pas reçu la Torah encore à ce moment-là.
On est privé de la Shoudara, très mal, j'imagine, les relations interdites. Et comment on peut envisager, avec ce qu'on est, le 49e de chez vous, avec tout ce qu'ils avaient comme solidité?
Vous pourriez demander comment est-ce qu'on peut envisager qu'ils soient idolâtres pendant ce temps-là. Les êtres humains, ils sont capables de faire des choses contradictoires. D'accord? Le grand exemple de cette capacité de faire des choses contradictoires, c'est Eliaou Bera Carmel. Quand Ibn Israël, à un certain moment, au temps du prophète Eliaou, ils se sont mis à adorer une idole qui s'appelait Baal. Et en fait, les Bnei Israël qui adoraient le Baal, ils continuaient d'adorer Hachem aussi. Est-ce que Eliyahu leur a dit, vous pouvez pas continuer avec un pied d'un côté et l'autre pied de l'autre côté? Ça veut dire, vous avez un pied dans l'idolâtrie et un pied dans la Torah. Il faut choisir. C'est là qu'il a fait la grande démonstration. Il s'est permis d'apporter un corban, enfin un corban sur le Carmel, c'est-à-dire qui n'était pas l'endroit où on a le droit d'apporter les corbanotes, et ça s'appelle Hora'at Sha'a. Un prophète, il a le droit pour un temps limité de mettre là, quand il pense que c'est nécessaire, de mettre la halakha entre parenthèses, c'est ce qu'il a fait, pour montrer la toute-puissance d'Hachem. Parce que là-bas, il a montré que le corban que lui, il a approché, il a brûlé complètement, et que les corbanotes qu'eux, ils ont mis pour le bal, ben, ça n'a pas marché, ça n'a pas brûlé. Donc, il a fait une démonstration de la puissance d'Hachem. Mais pour leur montrer, pour les aider à choisir le bon côté, vous avez un pied de... Donc, il y a cette possibilité, tout en étant, disons, en appliquant certaines lois qui montrent quand même une vraie recherche, etc. Mais en même temps, il y a un degré d'impureté parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas cédé complètement, mais ils étaient complètement imbibés. Quand on dit qu'ils sont Bekerev, c'est Goy, Bekerev, Goy, ce n'est pas seulement une question d'urbanisme, que les maisons étaient très proches les unes des autres. Ça voulait dire qu'il y avait, curieusement, des relations qui sont difficiles à comprendre parce que on a du mal à comprendre ces relations entre les maîtres et les esclaves. D'accord? A priori, pas vraiment des relations entre maîtres et esclaves, si ce n'est de domination. Donc c'est pas goy qui rêve goy. Mais c'est qu'il y a cette situation de Avadim en Égypte, elle est très étrange. On a déjà remarqué, je sais pas, que les Bnei Israël, ils sont esclaves, mais ils ont les troupeaux. Ils ont des troupeaux importants à Goshen. Donc, ils sont riches. Et donc, ils sont, ça veut dire, ouais, vous avez des choses, mais vous, alors comment, à quelles heures ils avaient le droit de s'occuper de leurs troupeaux et à quelles heures ils étaient mobilisés pour travailler de façon absolument incroyable et totalement épuisante pour les Égyptiens. Pardon? Non, mais je vous ai déjà raconté cette histoire. C'est Madame Nobécourt, là, la spécialiste de l'Égypte, enfin, qui, au temps où elle était vivante, disait que c'est pas vrai, tout ça, parce qu'il n'y a jamais eu d'esclavage en Égypte. Alors, je vous ai déjà expliqué, dans ce chiot, je crois, j'ai déjà expliqué qu'il n'y avait certainement pas, vraisemblablement pas, en Égypte, la notion d'esclavage qui existait en Grèce. Aujourd'hui, la notion d'esclave qu'on a, c'est le modèle grec de l'esclavage ou le modèle de l'esclavage des Noirs Mais peut-être que c'était un autre type d'esclavage. C'était, on peut considérer, si vous voulez, aujourd'hui on considère, pas que c'est pas comme ça, mais est-ce qu'on ne doit pas considérer que, je sais pas si vous savez, quelle était la condition des gens qui travaillaient dans les lainières, à Roubaix, etc., au 19e? Ces gens-là, ils pouvaient pas se marier avec qui ils voulaient, ils ne pouvaient pas habiter où ils voulaient, ils étaient obligés d'acheter leur truc chez machin, etc. Et le travail de leurs enfants, le travail de leurs petits-enfants, c'était au même endroit, que ce soit dans les mines ou que ce soit dans les lanières de Roubaix, etc. C'est une forme d'esclavage. Et ça dit pas obligatoirement son nom. Alors nous, on considère que ça s'appelle l'esclavage. Alors elle peut dire, il n'y avait pas d'esclavage. Oui, c'est peut-être la raison. Il y avait, j'en sais rien, mais disons, on peut imaginer, ça ne me dérange pas. Il n'y avait pas d'esclavage au sens où elle croit que le seul usage du mot esclavage, c'est l'esclavage dans les versions qu'elle connaît, grecques ou bien, c'est peut-être un peu la même chose, ou la version des Noirs, réduits dans les trucs de canne à sucre.
Ça, c'est probable, parce qu'actuellement, là, c'est sûrement un esclavage semi-imposé. Nous, il n'est pas imposé du tout. Il est infiltré dans notre cerveau, mais
Mais
lui,
nous, il y a une forme d'esclavage dans la mesure où il y a toutes sortes de restrictions qui nous sont imposées, mais on ne nous impose pas d'épouser uniquement les gens du coin qui ont le même boulot que nous. On n'est pas obligé d'habiter à deux pas dans des maisons qui appartiennent et qui sont louées par les usines qui nous emploient, etc. On n'est pas obligé à ça, mais c'est vrai que on ne peut pas dire qu'on est vraiment libre.
c'est le même esprit, c'est pas le même.
Et c'est ça, l'idée, c'est qu'il n'y a pas en hébreu de mot spécial qui est une racine différente. Qu'est-ce qu'on dit? Eved. Eved, c'est quoi? Eved, c'est quelqu'un qui travaille. On dit même, on n'a pas, même avoda zara, ça s'appelle une avoda. On dit seulement qu'elle est étrangère. On dit même pas, les Lévites, on dit pas du tout que c'est des faux prophètes. D'accord? On n'utilise pas le mot faux. D'accord? C'est des prophètes de mensonges ou des choses comme ça, des menteurs, etc. On dit pas qu'ils sont pas prophètes. Peut-être qu'ils sont prophètes dans leur tête. Peut-être que ce qu'ils racontent, c'est les trucs qui se passent dans leur tête. D'accord? C'est des fous qui pensent, voilà, et qui disent ces choses-là, et ils pensent qu'ils sont prophètes. Simplement, ça correspond à rien. C'est pas du vrai, en fait. Donc, si vous voulez, ces notions-là, elles sont, comme en hébreu, il n'y a pas de mot pour dire l'esclavage, il n'y a pas un mot esclave, c'est un travailleur, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui travaille, et c'est
On ne
tout.
peut pas dire qu'un travailleur qui est un avec lui-même, c'est-à-dire qui s'est réalisé, qui n'est pas en isolé lui-même, à ce moment-là, il n'est pas esclave, il est bête, donc noble. Et celui qui n'est pas en accord avec lui-même, il a un peu
Oh, mais je suis
plusieurs.
là, vous pouvez lire ça comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça vient nous dire que la notion d'esclave, Eved, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas un être qui est radicalement, extérieurement différent, c'est quelqu'un qui travaille. Et on peut avoir une notion comme la notion de Eved Ivri, où c'est quelqu'un qui a un travail, franchement dit, le Eved Ivri, il est appelé Eved, mais lui, il travaille, il y a toutes sortes de restrictions, toutes sortes de travaux qu'on ne peut pas lui faire, toute sa famille est nourrie, blanchie, logée gratuitement, la famille n'a pas d'obligation de travailler, il n'y a que lui qui travaille. Le seul problème qu'il a, à mon avis, la seule chose difficile qu'il a, c'est qu'éventuellement, le maître peut lui imposer d'avoir des rapports avec une servante, avec une esclave. Et alors, s'il y a des enfants, les enfants sont évidemment des esclaves qui appartiennent. Pourquoi le maître fait ça? Peut-être parce qu'il veut lui rendre des faveurs, mais c'est surtout qu'il est intéressé à ce que la servante, elle ait des enfants qui vous donnent un peu plus de petits esclaves. Et donc, avec tous les problèmes que la Torah traite, quand ce bonhomme-là, il doit libérer et qu'il dit non, je veux rester parce que j'aime ma femme et la femme dont il parle, c'est l'esclave.
Des sorties de l'esclavage, il pense à quoi?
Pardon?
Quand Hachem dit, vous sortirez de
Parce qu'on était dans un état d'esclavage, on était astreint à toutes sortes de choses, mais on avait effectivement, curieusement, des troupeaux. Et il y avait aussi, par exemple, la tribu de Lévi qui, elle, n'était pas esclave. Et donc, c'est particulier, je veux dire, et c'est un genre spécial. Mais les autres, ils ont souffert énormément parce que on les a fait travailler jusqu'à ne plus trouver son souffle. Et surtout que c'était une torture. Parce qu'on leur a fait faire des choses. Il fallait aller garder les bêtes sauvages. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et c'est pas net, parce que s'ils ont accepté, il y a une
Ils n'ont pas
gradation.
accepté.
Ben, au début, ils ont une
Non, au
dette.
début, ils ont, pas du tout. Au début, Claudine, ce qui s'est passé, c'est que comment on les a piégés? Ils étaient des gens libres. Même de, ils étaient très bien vus, puis tout à coup ils ont été moins bien vus. Mais comment on les a piégés? Alors le Midrash dit qu'ils ont inventé un ordre de la brique. Et même Paro, il se baladait avec une petite brique là, etc. Et on a dit, on a fait des concours, là, qui allait fabriquer le plus de briques. Et quand les Juifs, ils se sont poussés pour fabriquer plus, et on leur a dit, au bout d'un moment, on a mis des barbelés autour, on a dit, ok. Maintenant, vous allez produire ça tous les jours. Non, on ne peut pas. Vous venez de le faire, alors vous êtes obligé de le faire.
C'était pas libre. Déjà, intrinsèquement, ils ne l'étaient pas, puisqu'ils sont tombés dans le travers de l'orgueil de faire plus que le voisin et de se séduire parce que ça
Oui,
marche.
alors maintenant, si vous dites qu'on est esclave quand on est esclave de ces mauvaises midotes, on d'accord, on est bon. Donc, on est tous esclaves, c'est ça.
Et
D'accord.
c'est pour ça
Mais
que
non, mais
la
ça ne me dérange pas, mais ce n'est pas de ça qu'on parle.
Torah. Est-ce que la Torah, c'est pas ce sens-là? Je sais pas ce que c'est.
Non, mais
La Torah,
la
c'est pas
Torah,
la
elle veut,
religion.
la Torah, elle a sa valeur quand elle est pratiquée avec les bonnes midot. Parce qu'on vient de lire du Meshech Chokma que, en vérité, s'il n'y a pas les bonnes midot, ça vaut pas grand-chose. Ok, on est d'accord. Mais ça veut pas dire qu'on est, on est, être esclave de ses passions, etc. C'est pas de cet esclavage qu'on parle, parce que c'est pas vu comme une torture extérieure, tu le fais toi-même. Parce que je voulais voir avec vous du Meshech Chokhma sur cette situation. Oui, du 20e siècle. Non, c'est pas loin d'être. Oui. Ça veut dire Rosen. Yosef Rosen. Non, c'est pas lui, hein. Rachel, elle parle de. Est-ce qu'il y avait un autre rave au même endroit, qui était un génie aussi, qui s'appelait le Rogatchover, et qui s'appelait Rav Yosef Rosen. Lui, il s'appelait Rav Meir Simcha, mais son nom, s'il avait un nom de famille, je ne le connais pas. Pardon? Rav Shever, c'est Rosen. Oui, je ne sais pas s'il avait un nom de famille. Je ne marque pas son nom de famille, c'est Rav Meir Simcha. Merci, Mkha Cohen. Hein? Bon, c'était en Russie avant, mais maintenant, est-ce que c'est en Biélorussie ou je ne sais pas où?
La Russie a des études extrêmement fortes pour former des génies comme ça.
Oui, bon, il y avait beaucoup de. Ils ont beaucoup souffert, mais dans cette souffrance, il y avait en même temps. Le génie, quoi.
Impressionnant. Ils ont toujours été poursuivis comme ça. C'est impressionnant que
Et on a bon, tout ce qui a été écrit là, je parle de tout ce qui a été écrit sous les persécutions. On a écrit dans les croisades, on a écrit au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne, on a écrit dans tous les massacres.
peut-être un avec soi, on peut sortir quelque chose comme ça. On est déjà arrivé à l'intérieur, on trouve toujours des petites alliances. Ça me fait penser justement à
Et quand il y avait ces gens-là, tout le monde n'était pas à ce niveau-là.
ce que oui, mais eux,
Oui.
ça fait qu'ils ont eu des maîtres qui sont formés.
Oui, ils ont eu des maîtres, mais ils ont dépassé, souvent ils ont dépassé leurs maîtres. Voilà, je m'arrête là.
Merci beaucoup à Bronstein.
Pardon? Annie,
Oui, je suis là, j'ai été
je
éliminée
vois,
sous
vous
la
avez
main.
toute une bibliothèque. N'essayez pas de vous cacher derrière, j'ai pas de livre.
Y en a tellement qu'on ne sait plus où les mettre. Le chef de cette rébellion, Betzel Shaddai Islonan, Omar Ladonoï, Marcio Mesoudati et Ulaïv Tarbo, qui voit Tsilecha Mipar Yakush Medeveravos, Bevraso Yasser Lach, Betahat Kunafaf Tirtse, Tina Besorera Mito. L'autre chame parhalaila mechesi ufiomam, mi dever baofel ya lor mi ketev yashut sorayim, ipol mi tzidecha elef urovava mi unecha elecha.